Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Jérôme Florin jusqu'à 9h15.
RTL 8h18. Jérôme Florin, vous recevez ce matin Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.
Bonjour Monsieur Collomb.
Bonjour.
Est-ce que vous avez des informations concernant l'enquête de vos collègues espagnols ce matin? On sait notamment que le conducteur de la fourgonnette qui a percuté la foule hier est toujours en fuite.
Oui, il est toujours en fuite. Donc aujourd'hui, deux personnes ont été arrêtées. Le conducteur, lui, est toujours en fuite. On s'aperçoit qu'on avait affaire non pas à des individus isolés, mais à un réseau organisé qui a pu commettre ces attentats. Et donc, on voit bien que l'Espagne était confrontée à une menace extrêmement grande.
Est-ce qu'il y a des recherches en France ?
Pour le moment, nous avons passé au fichier l'ensemble des individus qui étaient concernés et nous n'avons pas pour le moment d'identification d'individus qui auraient été en France, mais les choses demandent à être confirmées.
Vous ne savez pas donc s'il y a des ramifications pour le moment ?
Nous ne croyons pas qu'il y ait de ramifications. À un moment donné, on avait fait état de Français qui auraient pu participer à cet attentat. Nous avons regardé l'ensemble des fichiers. Personne de connu ne correspond aux individus qui ont été concernés par l'attentat espagnol.
Gérard Collomb, vous saviez qu'une attaque était en préparation en Espagne. Vous aviez eu des informations qui auraient pu nous permettre notamment de prévenir des touristes français, puisque la police espagnol a très vite qualifié cette attaque d'attentat.
Si vous voulez, peut-être si très vite elle l'a qualifié d'attentat, c'est que la veille, c'était déjà passé un fait. Une maison avait été soufflée à Alcanar et on peut peut-être faire la liaison entre cette maison qui avait explosé et les attentats qui le lendemain se sont produits à Barcelone et ensuite à Cambridge.
Mais vous aviez eu des informations ou pas ?
Non, il n'y avait pas d'information spéciale. On sait que partout, dans tous les pays européens, la menace est grave, mais il n'y avait pas d'information spéciale. Vous voyez, mon collègue ministre de l'Intérieur espagnol doit venir mercredi prochain à Paris, de manière à pouvoir signer une convention de coopération et de formation entre la gendarmerie espagnole et la gendarmerie française. Donc, il n'y avait pas de menace précise. Il y avait une menace générale.
Est-ce que la France va relever son niveau d'alerte, notamment dans le sud-ouest ?
Vous savez, le niveau d'alerte est déjà extrêmement important. On s'est interrogé la semaine dernière sur l'utilité du dispositif Sentinelle. On voit aujourd'hui qu'il faut mobiliser profondément et les militaires et en même temps la police, la gendarmerie, toutes les forces intérieures de sécurité parce que la menace reste toujours importante.
Emmanuel Macron a annoncé que l'opération Sentinelle que vous évoquez serait revue en profondeur. Ça veut dire quoi en profondeur? Il y a plus de 7000 militaires aujourd'hui sur le terrain. Il y en aura plus, il y en aura moins, ils seront répartis différemment.
Peut-être, si vous voulez, des gardes moins statiques et peut-être un dispositif qui sera remanié de manière à être plus mobile et à ne pas exposer nos militaires comme ils l'ont été les derniers temps.
Gérard Collomb, vous confirmez ce matin sur RTL qu'on sortira bien de l'état d'urgence le 1er novembre ?
Oui, mais en même temps, comme vous le savez, j'ai déjà proposé au Sénat qu'il a adopté une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Un certain nombre, d'ailleurs, s'est élevé contre cette loi en disant qu'elle était liberticide. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a besoin de protéger nos concitoyens et donc qu'il faut permettre à nos services de pouvoir continuer à diligenter des enquêtes et à nos forces de sécurité à pouvoir agir.
Mais tout cela donc est déjà possible avec l'état d'urgence. Ça n'a pas empêché un homme d'attaquer des militaires la semaine dernière à Levallois. Un suspect totalement inconnu des services de renseignement. Personne n'avait remarqué qu'il s'était radicalisé. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce genre de radicalisation invisible ? À chaque fois, c'est la même chose. Les voisins, les amis, la famille disent « on n'avait rien deviné, il était gentil ».
Oui, si vous voulez, on a en fait deux faits d'attaque aujourd'hui. Vous avez à la fois des attaques planifiées, comme celle qui vient de se produire en Espagne, et puis vous avez des gens qui se radicalisent brutalement, avec souvent des profils psychologiques extrêmement troublés. Et donc, nous sommes en train de travailler avec ma collègue ministre de la Santé pour essayer de repérer l'ensemble de ces profils qui demain peuvent passer à l'acte et donc mobiliser l'ensemble des hôpitaux psychiatriques, des psychiatres libéraux, de manière à essayer de parer à cette menace terroriste individuelle, si je puis dire.
Vous pourriez les repérer dans des hôpitaux psychiatriques, c'est ça que vous dites ?
Ben, on pourrait effectivement avoir des protocoles où lorsque un certain nombre de gens ont des délires autour de la radicalisation islamique, pouvoir effectivement avoir un échange avec celles et ceux qui les côtoient.
Pour revenir à l'attentat de Barcelone, monsieur le ministre, est-ce que vous avez des nouvelles des Français blessés ? Il y en a 26, dont au moins 11 gravement.
Oui, j'ai même des chiffres un peu plus importants sur le nombre de blessés graves, peut-être autour de 17. Mon collègue ministre des Affaires étrangères, comme vous le savez, est parti pour Barcelone pour voir les blessés français. Évidemment, la France est encore durement frappée avec ces attentats à Barcelone et à Cambridge.
Donc 17 blessés graves côté français.
Oui. Ouais.
C'est ce que vous nous annoncez ce matin. Il y a combien de Français qui se trouvent aujourd'hui en zone irako-syrienne ?
Vous savez, on ne peut plus dire exactement, parce que vous avez eu un certain nombre de gens qui sont décédés sur zone. Mmh. Mais vous avez sans doute encore plus d'un millier, plus de 1500. Mais vous voyez.
Donc, qui sont susceptibles de revenir chez nous ? En France.
Alors, si vous voulez, sur, par exemple, les returnees qui sont revenus en France, vous en avez un peu plus de 200. Mais ils ont été immédiatement pris en charge par la justice et donc interpellés. Donc, ce n'est plus là le problème. Là où, aujourd'hui, nous avons un certain nombre de difficultés sur lesquelles nous veillons, c'est plutôt les enfants qui ont été sur les théâtres de guerre, quelquefois des adolescents qui ont participé aux scènes de guerre et sur lesquelles nous sommes en train de travailler.
Mais après, on fait quoi de ces gens-là ? Parce qu'il y avait un centre de déradicalisation qui avait ouvert en Indre-et-Loire. Il a fermé là, cet été. L'expérience ne s'est pas révélée concluante. Ouais. Est-ce qu'il faut renouveler l'expérience autrement ?
Nous avons décidé de travailler plutôt avec des travailleurs sociaux, des gens qui ont l'habitude de cas extrêmement difficiles. Et donc, les enfants font chaque fois l'objet d'un traitement spécial pour effectivement pouvoir déradicaliser et les ramener à la vie la plus normale possible.
Donc il y aura, on peut imaginer, un nouveau centre de déradicalisation.
Non, ça ne sera pas forcément dans des centres, parce que l'expérience s'est révélée un échec. Vous savez peut-être qu'un rapport a été fait par deux sénatrices, donc nous allons nous inspirer de ce rapport. Nous-mêmes, administration, sommes en train de faire une évaluation de tout ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et donc, nous allons forger une doctrine nouvelle sur la déradicalisation. Nous travaillons d'ailleurs en coopération avec nos amis allemands, pour qui le sujet est évidemment aussi extrêmement important.
Gérard Collomb, un mot de l'évacuation en cours, porte de la Chapelle à Paris, l'évacuation d'un campement de migrants. Ils vont être relogés dans le 15e arrondissement. Est-ce qu'il y a d'autres évacuations de prévues ?
Pour le moment, si vous voulez, la porte de la Chapelle est la deuxième évacuation que nous faisons en un mois, ce qui montre qu'il y a un dysfonctionnement dans le système parisien. D'ailleurs, un rapport qui avait été commandé par l'un de mes prédécesseurs, Bruno Leroux, pointe ces dysfonctionnements. Donc, nous sommes en train de travailler sur ce sujet avec monsieur le préfet de police, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait plus de mois en mois un certain nombre de gens qui viennent se regrouper près de la porte de la chapelle et qu'il faut progressivement transférer ailleurs. Donc nous sommes en train de réétudier le dispositif.
Vous ne savez pas encore comment empêcher ces regroupements ?
Si vous voulez, ce que nous voulons, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de lieu de focalisation, mais qu'on puisse accueillir dans le dispositif national d'asile, peut-être en amont de Paris, de manière à ce qu'il n'y ait plus ces concentrations qui se passent sur la porte de la chapelle.
Merci Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Au lendemain de l'attentat de Barcelone, je rappelle, 26 Français blessés, et vous nous l'annonciez, 17 parmi eux, 17 Français blessés gravement. Merci Monsieur Collomb, merci, bonne journée.